c'est en lisant qu'on devient liseron. La Fédération des œuvres laïques de l'Ardèche vous invite, petits et grands, à ouvrir vos oreilles pour écouter des histoires racontées par les bénévoles de Lire et Faire Lire. Une émission réalisée conjointement par les radios ardéchoises, Radio des Boutières, Radio d'ici, Déclic Radio et Fréquence 7.
Mystère sur le banc vert, de Christine Paluy. Un soir, au fond de son cartable, Lou trouve un papier plié en 10. Dessus, son prénom est marqué au gros feutre violet. Vite, Lou le déplie. Plus elle l'ouvre, plus il sent bon le secret. Enfin, elle lit. « Ma jolie Lou, demain je t'attendrai sur le banc vert. Ton P.C.H. » Qui a écrit ce papier ? Pas son papa chéri, elle le voit tous les jours. Paul Chappy ? Il est trop bête pour écrire des mots d'amour. Dans son lit, Lou essaie de réfléchir, mais elle finit par s'endormir. Le lendemain, à la récré, Lou se précipite vers Ninon pour lui montrer le papier. Ninon sourit. « Je sais, ton PCH, ça veut dire ton prince charmant. » Lou est étonnée. Elle n'est pas une princesse, ou alors le monde entier le lui cache depuis des années. Lou veut vérifier. Un prince charmant va peut-être arriver. « Écoute, Ninon, je m'allonge sur ce banc et je ferme les yeux. Toi, tu surveilles. Si le prince arrive, chante une chanson. » C'est la fin de la récré, Lou en a assez. Personne n'est venu l'embrasser. Mais Ninon a une idée. Elsa s'y connaît en prince charmant, elle va nous aider. En lisant le papier, Elsa s'exclame. « Les princes charmants n'attendent pas sur un banc. Ils enlèrent leurs amoureuses sur un cheval blanc. » Ton PCH, ça veut dire ton pirate chevelu, et je sais qui c'est. Lou et Ninon ouvrent des yeux ronds. Alors Elsa chuchote. Sébastien, ses cheveux poussent dans tous les sens. En plus, à la fête de l'école, il s'est déguisé en pirate. Pendant la leçon de calcul, Lou espionne Bastien. Elle lui demande un crayon. Tiens, il est d'accord, pourtant il ne prête jamais rien. Elle cherche dans sa trousse. Bizarre, à côté du crayon, elle voit un gros feutre violet. À la cantine, Lou, Ninon et Elsa se mettent à côté de Bastien. Au dessert, il dit à son copain « Je suis content, j'ai un rendez-vous cet après-midi. » Plus de doute, le pirate chevelu, Sébastien. Lou fait un beau sourire à Bastien et elle lui demande l'air de rien. « Il est où ton rendez-vous ?» Bastien annonce fièrement. « Chez le dentiste, je vais avoir un appareil, ma bouche va briller comme celle de Roboman. » Zut et rezut, ce n'est pas lui. Dommage, Lou aurait bien aimé avoir Bastien comme amoureux secret. Lou, Ninon et Elsa avalent leur yaourt et foncent dans la cour. L'enquête n'a pas avancé et cet après-midi, la classe va visiter le zoo. Sur le chemin du zoo, Ninon et Elsa réfléchissent à haute voix. « Ton PCH, c'est ton parfait chameau ?» Non. Ton pain choco ? Non. Ton papy chinois ? Non, rien de tout ça. Tout à coup, Elsa s'écrie. Je sais ! Ton PCH, c'est ton pingouin chauve. On va peut-être le voir au zoo. C'est idiot. Un pingouin chauve qui écrit des mots. Lou est énervée. Ses copines ne disent que des bêtises. Mais Elsa proteste. Réfléchis, c'est un nom de code. Ton pingouin chauve est un agent secret. La classe est arrivée au zoo. Devant une cage, la maîtresse parle des singes. Mais Lou et ses copines en ont assez. Elle, ce qu'elle voudrait, c'est rencontrer l'agent secret. Soudain, un monsieur avec des lunettes noires s'assied sur un banc vert. Ninon chuchote. « C'est lui !» Alors Lou va lui demander d'une voix polie. « Bonjour monsieur, c'est vous mon pingouin chauve ?»« Chauve peut-être, mais pingouin certainement pas. » Raté. Le monsieur n'était pas un agent secret et il a eu l'air drôlement fâché. Le car a ramené la classe devant l'école. Ninon et Elsa sont rentrées chez elles. Toute seule sur un banc, Lou guette sa maman. C'est le jour le plus nul de sa vie. Bastien n'est pas son amoureux et le rendez-vous était une blague. Maintenant, Lou a presque froid et sa maman n'est pas là. Soudain, Lou entend un drôle de bruit. Elle regarde partout. À côté d'elle, un panier oublié vient de bouger. Doucement, Lou soulève le couvercle. « Ça alors ? un petit chat pointe le bout de son nez. Près du chaton, Lou voit un papier déplié. Des mots sont écrits au gros feutre violet. « Bonjour, ma jolie Lou. S'il te plaît, adopte-moi. Je m'appelle Mystère et je suis ton petit chat. » Lou saute de joie et prend le chaton dans ses bras. « Mais d'où viens-tu, toi ?» Lou sourit, elle a compris. Elle vient de voir sa maman cachée derrière un arbre qui l'espionne en rigolant.
La chachate à tutu et le phénix de Jean-Louis Lecravert, d'après un conte traditionnel chinois. La chachate à tutu est le plus petit des oiseaux qui vit au Tibet. Le plus petit est le moins joli parce qu'elle a les plumes du cou tout ébouriffées. Et maintenant que tout le monde la connaît, l'histoire peut commencer. Il y a de cela bien longtemps, une chatte tutu avait fait son nid dans une touffe d'herbe. Elle y avait pondu 3 œufs, mais elle ne pouvait pas rester tout le temps sur ses œufs. Il fallait bien qu'elle aille chercher à manger. Et voilà qu'un jour qu'elle était partie chercher à manger, en revenant près de son nid, elle a vu la queue du rat filer entre les herbes. Vite, elle a regardé dans son nid. Oh malheur ! Le rat lui avait mangé 2 de ses œufs. Alors, la chachate tutu a pleuré, s'est arraché les plumes, puis la colère l'a prise et elle a dit « Rat, tu es plus fort que moi, mais ça ne fait rien, tu vas me payer ça quand même. » Elle a pris sa volée, elle est allée trouver sur son arbre, au bord du lac, le phénix, c'est-à-dire le plus beau, le plus grand, le plus noble, bref, le roi des oiseaux. Et elle a dit « Phénix, il m'arrive un malheur. Le rat a mangé 2 de mes œufs, 2 de mes 3 œufs. Alors je demande justice. Il faut que tu le punisses avant qu'il mange le 3e. » Le phénix l'a regardé. « Écoute, chachate à tutu, je trouve que tu me déranges pour bien peu de choses. » « Comment ? 2 de mes petits tués dans l'œuf, le 3e en grand danger, et tu trouves que c'est peu de choses ? » « Je trouve, oui. » Et je te rappelle que c'est à la mère de protéger ses petits. » Alors, la chachate tutu a dit « Bon, ben, je vais m'arranger pour protéger mon petit, mais je retiens que toi, le roi des oiseaux, tu refuses de me rendre justice et je te dis qu'une petite chose mal réglée peut avoir de graves conséquences. » Là-dessus, elle a pris sa volée. Revenue près de son nid, elle a ramassé une brindille pointue qui traînait par terre en guise de flèche. Elle s'est perchée sur un buisson et elle a attendu. Pas longtemps. Elle a bientôt aperçu le rat qui se faufilait vers son nid. Alors, de toutes ses petites forces, la chachate à tutu a brandi sa flèche et elle l'a lancée vers le rat. La flèche est venue se planter dans l'œil du rat. Alors le rat s'est mis à couiner. Il a couru partout, il a plongé dans le premier refuge qu'il a pu trouver. Et c'était la narine gauche d'un tigre qui dormait au bord du lac. Quand le rat lui est entré dans le nez, le tigre a sursauté et pouf, il a plongé dans le lac. Mais dans l'eau du lac, tout près du bord, là, il y avait un dragon qui se laissait flotter, les ailes en croix, tranquille. Alors quand le tigre a plongé, le dragon a donné un grand coup d'aile et il s'est envolé dans le ciel où il a fait un tour complet. Oui, mais voilà qu'en faisant son tour complet, avec sa longue queue de dragon, il est venu frapper sur la branche de l'arbre au bord du lac, le nid du phénix. Et il a cassé tout net l'œuf qui s'y trouvait. Le phénix est allé vers le dragon. « Mais qu'est-ce qui te prend, toi, de venir casser mon œuf, à moins qu'il ne t'ait rien fait ? Il est fou, celui-là. » « Ben, je te demande pardon, » a dit le dragon, « mais ce n'est pas de ma faute. » « Pas ta faute ? Tu crois que je ne t'ai pas vu ? Ne sais-tu pas que le phénix ne peuvent pas avoir qu'un œuf par an et qu'un seul petit dans leur vie ? Je commence à me faire vieux, moi, et je n'en ai pas eu encore. » « Écoute, » dit le dragon, « tu vas comprendre. Je me laissais flotter tranquille sur le bord du lac, et voilà qu'un tigre a plongé sur moi. J'ai cru qu'il voulait m'attaquer. » Je me suis dégagé, moi. C'est comme ça que j'ai cassé ton œuf. Mais c'est la faute au tigre. Va donc lui demander ce qu'il lui a pris. » Le phénix est allé trouver le tigre et lui a répété les paroles du dragon. « Ben oui, dit le tigre, le dragon n'a pas menti, mais tu vas comprendre. Je dormais au bord du lac et voilà qu'un rat m'est rentré dans le nez. Ça m'a réveillé en sursaut. J'ai cru qu'on m'attaquait, moi. Alors, j'ai plongé. Mais c'est la faute du rat. Va donc lui demander ce qu'il lui a pris. » Le phénix est allé trouver le rat et lui a répété les paroles du tigre. « Ben oui, dit le rat, le tigre n'a pas menti, mais tu vas comprendre, je trottinais là, dans l'herbe, comme n'importe quel rat du Tibet. La chachate à tutu m'a lancé une flèche dans l'œil. Ben, ça m'a fait mal, hein. J'ai couru partout, j'ai plongé dans le premier refuge, et j'ai pu trouver, et c'était la narine du tigre. Ben, c'est la faute à la chachate à tutu. Va donc lui demander ce qui lui a pris. » Alors le phénix est allé trouver la chachate tutu et lui a répété les paroles du rat. Mais le petit oiseau lui a dit « Écoute, phénix, je trouve que tu me déranges pour bien peu de choses. Tu as perdu ton œuf, c'est malheureux, mais moi j'en ai perdu deux. Et puis qu'est-ce que tu m'as dit quand je suis venu te demander justice? C'est à la mère de protéger ses petits. Voilà ce que tu m'as dit. Eh bien, c'est ce que j'ai fait. J'ai agi selon tes paroles et tu n'as rien à me reprocher. » Le phénix est resté là un moment, bec serré, puis à lourd battement d'aile, il est reparti vers son nid. Ce qui prouve bien qu'une chose mal réglée peut avoir de graves conséquences.
Billy du Bayou, SOS Garpe en détresse, de Séverine Vidal et Ronan Badel. Je vis dans le Bayou, ce lieu magique au milieu des marécages entourés d'eau, de lianes et d'arbres aux branches croco. Ici, la musique coule à flot, c'est la Louisiane, le pays où coule le Mississippi, où coule le jazz de la Nouvelle-Orléans. Je suis Billy, Billy du Bayou. Dans mon petit monde, il y a les boys. Will, mon cousin. 9 ans qu'on partage tout, nos jouets, nos repas, la musique de son banjo, nos rêves d'avenir et nos crottes de nez. Owen et Flynn, les fils de Ted, le maître d'école. Regardez-les, ils sont chouettes mes potes, non? Owen et son tifère et Flynn à la contrebassine. La première fois que je les ai vus, je les ai aimés dans la seconde. Eux, c'est des cajuns. Coup de foudre direct. On est pareil. Même genou écorché, même salopette, même main crado, même envie de faire de la musique tout le temps. Pareil, je vous dis. Nous quatre, Owen, Flynn, Will et moi, on est comme les 4 doigts de la main d'Oma l'Indien. Il y a Garpe, mon alligator femelle. Oui, bon, je reconnais que Garpe est un nom plutôt mal choisi pour une fille. Parole de Billy, c'est pas facile de distinguer un alligator mâle d'un alligator femelle. Quand j'ai compris, c'était trop tard. Garpe est resté Garpe. Et il y a Martha. Elle, c'est une grande joueuse de bandoneon, une grande belle, un grand cœur, une grande sœur. Il y a Mama Soro. Elle tient l'épicerie du coin, le Joe Sullivan Big Giant Market. Mais le nom du magasin rallonge d'année en année, faudra que je vous raconte. Mama Soro est née ici et ça se voit, elle est le Bayou. Pourquoi j'ai pas des yeux derrière la tête? On se balade souvent toutes les deux, Garpe et moi. Quand elle était petite, je la tenais en laisse de peur qu'elle se sauve. Et puis je crois qu'on est devenus potes, elle et moi. Parfois on fait la chasse aux maringouins et aux diables sauterelles. Avec elle, je joue la confiance. On marche, elle derrière et moi devant. Je sifflote de temps en temps, je lui parle. Appelez pas l'hosto pour les dingos, je sais bien qu'elle va pas me répondre. C'est justement ça qui est bonnard. Elle va pas me donner son avis tout moisi comme les autres. Elle écoute ou elle fait semblant. C'est peut-être poli, les alligators femelles. Et voilà. Bref, quand c'est arrivé, on se promenait dans les champs de pop-corn du Bayou. Quoi? Vous ne me croyez pas, c'est ça? Mama Soro dit que des fois le soleil tape si fort en Louisiane qu'on peut voir le maïs se transformer en pop-corn en plein champ. Comme ça, pof, t'as plus qu'à ramasser par terre et manger. Jamais vu en vrai, mais je la crois. Du coup, quand ça cogne bien, je file dans le champ de Mademoiselle Elsie. Et j'attends mon goûter. Je reprends. On en perd un temps avec vous. Donc on se baladait dans les champs de pop-corn, moi devant, en train de parler à Garpe de mes rêves d'avenir. Ou sinon, chanteuse de jazz connue dans le monde entier, c'est pas mal aussi. Ou alors pompier, Billy, la fille pompier du bayou. Voilà, c'est la gare. On s'assoit et on attend le goûter au soleil. En me retournant, plus personne. Garpe envolée. J'ai appelé, hurlé, sifflé. Pas de réponse, rien. Le silence du bayou pour seule réponse. J'ai soulevé chaque épi de maïs, vérifié sous chaque rocher. Pas la queue d'un alligator dans le secteur. Alors j'ai couru chez moi pour demander de l'aide. Ma sœur Martha faisait la sieste dans son hamac, bandeau néon en main. Je l'ai réveillée en hurlant « Garpe a disparu !» On a réfléchi ensemble à quoi faire, comment et dans quel ordre. On s'est dit qu'il fallait quadriller le village, se partager les rues et aller frapper chez tous les voisins pour leur demander s'ils n'auraient pas vu un alligator perdu. On a demandé à Flynn de dessiner Garpe. Il est fort en dessin, Flynn. « Bonjour, vous n'auriez pas vu un alligator ? Il est vert, haut comme ça. Si vous le voyez, rapportez-le chez Mama Soro. » On est rentré les mains vides, comme les chercheurs du trésor du bayou qu'on a croisé. Alors, rien ? Non, rien. Nous non plus, on est bredouille. Vous cherchez le trésor, vous aussi ? Pire que ça. On a fini la route avec eux, direction chez Mama Soro, la seule qui trouverait les mots, ou mieux, une solution. Taisez-vous, asseyez-vous et mangez, vous me raconterez après. Non, mais on n'a pas d'idée de parler par une chaleur pareille. Servez-vous, il est tout chaud. J'ai eu qu'à me baisser pour le ramasser là-haut dans le champ de la vieille Elsie. On a obéi, mangé, bu, en silence. Faut pas contrarier Mama Soro. Elle aime pas quand on gavagne. Quand Flynn a avalé le dernier morceau de pop-corn, on a tout raconté pour Garpe. Mama Soro a dit « Elle a fugué, c'est sûr, par amour. Elle a rejoint son bel alligator, celui qui vit près de chez Oma l'Indien. Je vous parie mon épicerie qu'elle roucoule sous les lianes Astor. » « Ça se défend ta théorie, Mama », a dit un des chercheurs de trésors. « Faut creuser, ouais », a dit l'autre. « Creuser quoi ? Elle est pas morte, Garpe ?» a miaulé le petit Owen. On a rigolé, comme ça un peu, jusqu'au bruit du camion dans notre dos. On rigolait en gardant Mama Soro, debout devant la table. Puis on a vu sa tête qui suivait le camion, sa bouche grande ouverte, ses yeux qui semblaient dire « Morte, Garpe ? Pas encore, mais faut pas traîner. » Alors on a arrêté de rire, tous en même temps. On s'est tourné vers le camion, tous en même temps. Bien en rythme, les musiciens. Et on a lu l'affiche sur le camion. Gombo d'alligator, 3 dollars l'assiette. À Luke Snack, mercredi soir. Owen, qui ne sait pas encore lire, a dit « Pourquoi vous rigolez plus ? Vous êtes fâchés ? Ça pèse combien, tu crois, une bestiole pareille ? Aucune idée, peut-être 200 ou 300 kilos. Pas mal de steak, quoi. » Arrête, Will, t'es pas drôle. Pardon, oui, bon. En tout cas, faut trouver une idée. On risque pas de la porter, même en y allant tous. On n'avait jamais fait ça avant, faut dire. Organiser une expédition, prévoir une évasion, porter un alligator à bout de bras. On est des gosses, on n'est pas des guerriers. Même avec un plan du bayou, merci Mama Soro, des idées d'adultes, merci Ted, et les talents de dessinateur de Flynn, ça n'a pas été facile. Mais après 2 heures de discussion, on a décidé qu'on allait y arriver avec de la corde, plus de corde, la barque, nos washboards, banjo, casserole, encore de la corde, la planche de surf, les talents de comédienne de Mama Soro. Ensuite, Will et moi, on est allés espionner près du Huxnack. Un vrai enfer sur terre, ce bazar. Qui peut avoir envie de venir manger dans un endroit aussi horrible ? Mystère. Mystère sur terre. On l'a vu, de loin, préparer sa marmite à gombo. Poivron, oignons, sel, poivre. Il s'en léchait les babines à l'avance, le gros Hugues. On s'est approché un peu et c'est là qu'on a vu Garpe. Pauvre petite Garpe attachée dans un lit à barreaux dans la pièce du fond. Elle avait l'air de dormir. Ça m'a fait de la peine de la voir comme ça. Will m'a pris la main, comme le jour où on a vu Oma l'Indien perdre son doigt. On va la sortir de là, Billy. Promis. Parole de Will. Le plus dur, c'était de se repérer dans le noir, sans lanterne, sans autre lumière que la lune. Même avec Mama Soro qui connaît le bayou comme sa poche. On a ramé sans faire de bruit jusqu'à la taverne de l'affreux Hugues. Chacun savait ce qu'il avait à faire, on avait bien répété. Pendant que Will, Owen, Martha et Mama Soro sont allés s'installer sous la fenêtre de la chambre de Hugues, j'ai foncé avec Flynn et Ted à l'arrière avec tout le matériel. Vous allez pas y arriver comme ça », m'a fait sursauter. C'était Oma l'Indien. Vous aurez besoin des 9 doigts d'Oma. J'ai vu ce que Hugues allait faire cuire. Je suis venue délivrer Gap. Je l'aime bien. Merci, monsieur Oma, dit Ted. Et on a tout installé ensemble. On a déroulé la corde. Oma est allé la fixer en montant à l'arbre. Ted lui a tendu la planche de surf. Tout était prêt. À moi de jouer, j'ai pensé, avant de faire l'oiseau comme prévu. Un long sifflement des tourneaux pour que Mama Soro entende le signal et pour réveiller Garp, lui dire d'un coup « On est là, ma vieille, on est venue te chercher. » On avait prévu que les autres se mettent à jouer très fort sous la chambre pour énerver Hugues et le faire venir à la fenêtre. L'occuper, quoi. Ça n'a pas loupé. Dès les premiers coups de casserole et frottements de washboard, dès que Will a commencé à jouer du banjo, on a entendu le cuisinier hurler « Mais qu'est-ce que c'est que ce raffut? Qui va là ?» Mama Soro pouvait faire son entrée en scène. Magnifique. « C'est moi, Hugues. C'est moi, Mama Soro. Qu'est-ce que tu fais là en pleine nuit, Mama ? » ?»« Écoute-moi, je viens te chanter la sérénade, Hugues. » On y aurait presque cru, tellement elle joue bien la comédie. Elle l'a embobinée en moins de 2. « Et vas-y que je te dis que t'es le plus beau du bayou. Et vas-y que je te demande de venir danser avec moi au bal de dimanche. Et vas-y que je t'envoie des bisous avec la main sous la lune. » Il y a cru l'affreux mangeur d'alligator. Nous, ça nous a juste laissé le temps de monter délivrer Garp, de l'attacher à la corde, de la poser sur le surf et de la laisser s'envoler dans la nuit du bayou. Au dernier moment, comme elle me tenait bien, je me suis retrouvée accrochée à sa queue. On a volé ensemble en criant de joie. Mais dans nos têtes, pour ne pas se faire prendre, l'atterrissage a été un peu rude, mais la barque a tenu bon. Les autres nous ont rejoints en courant. On s'est tous réinstallés dans les deux barques et on a ramé, 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 ramé. On pouvait entendre Hugues hurler comme un loup. « Bande de petits moins que rien, je vous aurai, je me vengerai !» Oma l'Indien est resté sur la berge. « Je m'occupe de Hugues, filez !» Le lendemain midi, on a fait « Waouh !» Un grand festin dans le jardin de Mama Soro. Comme un banquet de mariage, sans marier. On a même installé Garp à table, et je peux vous le dire, ça sourit les alligators. Mama Soro avait préparé tout un tas de bonnes choses, du tac-tac, de la salade et du poulet. Ziggy et les autres ont répliqué et on a eu droit à une belle fanfare de fête. La musique, c'est quelque chose. Ça vous rassemble tout le monde, ça vous attache les uns aux autres. Will s'est approché avec son banjo qui pleure. J'ai grimpé sur ma branche pour siffler. Owen a pris son tifer, Flynn son violon. Ma sœur a attrapé son bandeau néon. Et puis Ziggy a balancé comme ça. Et Garp alors? Elle est des nôtres, non? Alors Ted a aidé Garp à s'installer. Mama Soro a filé chercher la harpe et le concert a pu démarrer. J'en aurais pleuré si c'était pas si drôle. 300 kilos de steak d'alligator jouant de la harpe. Alors que la fête battait son plein, on a vu débarquer un sacré duo. Oma l'Indien, marchant à côté de Hugues, les bras chargés de fruits de toutes les couleurs. « Tu vois, Hugues, je t'avais dit, c'est une musicienne, Garp. Alors vas-y, dis ce que t'as à dire, sinon je raconterai à tout le monde que tu cuisines un des musiciens de Ziggy en gombo. Tu pourras le fermer, ton resto, Hugues. « Ouais, c'est ma vedette, Garp !» a ajouté Ziggy en éclatant de rire. Alors Hugues s'est approché de Garp avec son plateau de fruits. « Mademoiselle, je vous présente toutes mes plates excuses pour le malentendu dont vous avez été victime. Qu'est-ce que je vous sers ?»« Vous avez déjà vu un alligator qui reprend 2 fois de l'ananas, servi frais, par celui qui voulait le faire cuire la veille ?» Vous avez déjà vu Mama Soro rire à en pleurer? Vous avez déjà assisté à un concert de toutes les couleurs? Non? Alors, passez-nous voir, on sera là, on est toujours là.
Vous venez d'écouter « C'est en lisant qu'on devient liseron », une émission de la Fédération des œuvres laïques de l'Ardèche, en partenariat avec les radios du département, Radio des Boutières, Déclic Radio, Radio d'ici et Fréquence 7.